sonhei com você. Nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer.
Amis auditeurs de Tranche de Vie, je me trouve aujourd'hui dans la maison de quartier de Saint-Martin, où vient de se dérouler l'Assemblée générale d'une association qui s'appelle Amis Amigos. Cette association, comme on va vous l'expliquer, entend développer les relations entre, et en particulier les relations culturelles, entre l'Espagne et la France. Et sa présidente, Marie-Rose Théophile, a accepté de nous présenter cette association et ses activités.
Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer.
Marie-Rose Théophile, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à nos éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, ce que fait votre association?
Cette association, elle a justement été créée pour réunir les Français et les Espagnols et pour faire connaître l'Espagne aux Français. Et où on se rend quand même une fois par an avec des gens, des Français qui vont en Espagne pour visiter. Et voilà, je voulais faire connaître mon pays d'origine à des Français, quoi, puisque je suis française d'adoption.
Vous êtes française d'adoption. Est-ce que vous êtes native de l'Espagne?
Oui. Oui, oui, je suis née en Espagne, je suis rentrée en France, j'avais 17 ans. Et donc, on est rentrés en 61 en France, pas à cause du Franco, puisque nous on était très bien, mais ma mère avait toute sa famille ici. Et puis, elle a décidé un jour que sa mère est morte, qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps, de rentrer en France. Et je suis rentrée avec elle, malgré que moi, j'avais un autre avenir que je n'ai pas eu ici.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quand date votre association et ce qu'on y fait en dehors des contacts que vous avez évoqués à travers des voyages?
Alors, l'association a été créée en mars 2005, le 11 mars 2005. Et donc, l'association fait des conférences. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une conférence sur Lucie Michel, qui est une ancienne résistante et qui est une très brave femme. Et donc, on fait des conférences, on fait des sorties. Le dimanche 3 avril, on fait une paella et on fait venir pour cette occasion la tuna de Zamora. Et puis, on fait aussi des cours d'espagnol. Et puis, on a une bibliothèque pour les gens qui s'intéresseraient de venir lire des livres en espagnol. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On a une association où on s'entend très bien ensemble et que depuis 11 ans, presque les mêmes personnes, bon, ça s'ajoute toujours un peu, mais il y a des personnes qui ont commencé avec moi, quoi.
Alors là, vous avez dit beaucoup de choses. Oui. Votre association, elle a plus de 10 ans maintenant. Vous avez parlé de 2005.
Oui, 11 ans.
Elle a plus de 10 ans. Vous avez parlé de ses activités festives, hein, de la paella. Vous avez évoqué la tuna de Zamora. Mmh. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce que c'est que cette tuna de Zamora?
Alors, la tuna de Zamora, c'est des jeunes étudiants qui, pour se payer leurs études, ils vont jouer dans les rues et ils vont faire des sérénades à des jeunes filles comme eux, quoi. Et ces jeunes filles, en récompense, elles leur offrent des rubans de couleur qu'elles ont brodés elles-mêmes et qu'eux, ils s'attachent à leur cap. Et donc, quand ils vont jouer avec leur guitare, ils portent ce ruban et c'est vraiment très, très folklorique et très, très beau. Très, très beau.
Mais ça, c'est un groupe folklorique qui est local ou qui vient d'Espagne.
Qui vient d'Espagne, qui vient de Zamora. C'est l'équipe qu'on dit estudiantine. Estudiantine, ça veut dire étudiant. Et qui, pour payer leurs études, font ça. Donc, c'est l'équipe de Zamora. Il y en a une autre à Madrid aussi, qui est venue d'ailleurs à Périgueux une fois, il y a très longtemps.
Donc, ils se déplacent jusqu'ici pour accompagner vos petites fêtes. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à nos auditeurs, combien vous avez d'adhérents dans votre association ?
Ben, je pense qu'on est à peu près 130-150. Voilà, ça change parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, mais avec les voyages, en principe, on a 50 personnes. Après, il y a les cours où il y a une trentaine de personnes, 30-35. Donc, tout ça, ça s'ajoute avec les gens qui ne s'intéressent que juste à la paella. Alors, je pense qu'on doit être, je n'ai pas compté puisque là, on vient de faire l'assemblée, mais on doit être à peu près 130 adhérents.
Voilà, entre 130 et 150, suivant. Mais alors, ces personnes qui viennent là, ce sont des gens qui aiment l'Espagne ou qui veulent la découvrir, ou ce sont des gens qui veulent découvrir sa langue ou se perfectionner dans sa langue ?
Mais il y a les deux, c'est les deux. Il y a ceux qui prennent les cours d'espagnol, qui veulent se perfectionner dans cette langue, mais il y a surtout les gens qui aiment l'Espagne et qui cherchent cette conviviabilité qu'on a les Espagnols, c'est-à-dire qu'on aime bien parler, on aime beaucoup parler, d'ailleurs, vous rendez compte que je parle beaucoup déjà, et c'est pour ça.
Vous êtes là pour ça.
Hein. Oui, et c'est pour ça que je crée cette association, justement, pour pouvoir avoir ce mélange de gens. Et disons que j'ai plus de Français que d'Espagnols dans l'association. Parce que les Espagnols, on dirait qu'ils ne se sentent pas concernés.
Ah oui, c'est curieux.
Oui.
Mais vous avez, vous-même, à titre personnel, vous avez des relations avec beaucoup d'Espagnols vivant dans le Périgord ou à Périgueux.
Oui, 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 mais pas tant que ça. J'ai surtout beaucoup des affinités avec des Français. Plus qu'avec des Espagnols, j'en ai quelques-uns, mais j'ai plus des Français.
À quoi est-ce que vous attribuez ce comportement des Espagnols ? Parce que je pense par exemple au comportement des Portugais en Dordogne. Ils sont très liés, ils organisent des fêtes ensemble.
Tout à fait. Eh bien, nous, non. Il a fallu que moi, je crée cette association pour qu'il y ait une association espagnole en Dordogne. Bon, il y en a pas un peu partout d'associations espagnoles. Il y en a à Bordeaux, il y a à Libourne, il y a à Coutras. Enfin, il y en a beaucoup avec qui j'entretiens des relations, voilà. Mais bon, on dirait qu'ils sont beaucoup plus d'Espagnols qu'ici en Dordogne. En Dordogne, il y en a moins.
C'est vrai que dès qu'on arrive à Bordeaux et qu'on dépasse Bordeaux, on sent l'influence de l'Espagne qui va croissant plus on s'approche de la frontière.
Voilà, parce que les gens, quand il y a eu en 36, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en premier à Bordeaux. Voilà. Et des gens qui voulaient peut-être s'expatrier dans d'autres pays pour prendre ils prenaient le bateau à Bordeaux. Donc moi, j'ai une tante qui est au Mexique, hein, qui a pris le bateau à Bordeaux, en même temps que ma grand-mère qui est restée à Périgueux et qui après s'est mariée avec un Espagnol, hein, mais qui est toujours restée ici. Mais c'est vrai qu'à Périgueux, il n'y a pas beaucoup d'Espagnols et ceux qu'il y avait, ils sont morts parce qu'ils sont venus pendant la guerre. Et les enfants ne suivent pas le même truc, ne sont pas intéressés par l'Espagne.
J'ai l'impression qu'ils sont moins fidèles à leurs racines que la génération précédente.
Tout à fait.
Parmi vos membres, est-ce qu'il y a malgré tout des gens qui ont une origine espagnole ?
Oui. Il doit y avoir une vingtaine. Quand même qui sont d'origine espagnole. Il y en a qui ont pris la double nationalité, comme moi, puisqu'à un moment donné, on n'avait pas le droit de la double nationalité. Et pendant 3 ans, le ministre des Affaires étrangères, qui est venu nous voir spécialement pour nous, nous a permis d'avoir pendant 3 ans la double nationalité, parce que moi, je ne voulais pas perdre la nationalité française. J'y tiens, ma nationalité française.
Est-ce que toutes les activités que vous faites sont reconnus par les autorités départementales ou municipales? Est-ce que vous êtes soutenu, votre association est soutenue? Comment elle fonctionne matériellement?
Alors, soutenue moralement peut-être, mais financièrement non, ni par l'Espagne, ni par la France. D'abord, bon, la France, je n'y tenais pas beaucoup. Parce que je voulais être libre de faire ce que je veux et pas avoir à donner des. Pas avoir à me justifier devant des gens.
À donner des gages.
Voilà, tout à fait. Alors, donc, on se débrouille très bien avec nos voyages et tout ça, et on arrive à faire marcher l'association, et avec nos cours d'espagnol, et à faire marcher l'association sans trop d'ennuis, sans avoir besoin des subventions. Voilà.
C'est-à-dire que vous fonctionnez en autofinancement complètement.
Oui, complètement.
Mais malgré tout, vous bénéficiez quand même d'une salle pour les cours d'espagnol en particulier ou pour organiser une réunion telle que celle d'aujourd'hui.
Tout à fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est quand même reconnu par la mairie parce que la mairie nous prête les salles parce que sinon ça nous reviendrait trop cher, on ne pourrait pas le faire. Et ça depuis toujours, depuis 11 ans, la mairie nous a toujours soutenu. On lui a jamais rien demandé, question financière, mais question des prêts des salles et pour faire des choses, ils sont toujours là.
Et lorsque vous organisez des voyages en Espagne, c'est vous qui organisez tout, de A jusqu'à Z ?
Voilà.
Et vous avez toujours quel nombre de participants quand vous organisez un voyage par an ou plusieurs?
Non, un voyage par an. J'organise un voyage par an depuis, ça fait 9 ans. Et j'ai commencé parce que j'étais allée voir l'association de Bordeaux et eux, ils le faisaient. Mais la première année, on est parti avec eux pour pouvoir... Moi, me renseigner de la façon de moi pouvoir le faire après tout seul. Parce que eux, ils ne voulaient pas trop que je le fasse tout seul, ils préféraient qu'on aille avec eux. Et moi, je voulais mon indépendance. Donc, je me suis renseignée, et donc, c'est une agence de voyage espagnole, qui est à Saint-Sébastien, et qui nous envoie un car vide nous chercher, et qu'après, quand on part avec ses cars, il reste avec nous pendant tous les 8 jours. Donc, on a toujours le car à notre disposition pour faire ce voyage. Et après, elle revient, elle nous pose et elle repart à vide. Et ça nous revient moins cher que si on faisait ici, puisque je me suis renseignée ici. Et comme, bon, pour faire ça, ben, j'ai toujours gardé la même agence de voyage. Ça fait que maintenant, elle nous connaît tellement que maintenant, bon, on se tutoie, on s'embrasse, elle vient me voir tous les ans. Et puis alors, elle essaye au maximum de nous faire plaisir pour nous faire le moins cher possible.
Parce que vous êtes une bonne cliente et que vous avez créé une tradition.
Voilà.
Mais alors, ça doit être quand même extrêmement lourd à organiser, ça. Parce que si vous êtes presque toute seule pour faire ça.
Tout à fait. Bon, j'ai mon trésorier qui m'aide, hein, mais sinon c'est vrai que je suis tout seul pour l'organiser et pour discuter surtout avec la patronne de l'agence, hein, la directrice de l'agence, qui est très gentille, mais que bon, elle, il faut bien qu'elle gagne sa vie. Mais moi, bon, je pousse toujours vers le bas pour essayer de faire payer le moins cher, parce que mon intérêt à moi, c'est pas que les gens riches viennent au voyage, là, les gens riches, ils peuvent se les payer. Moi, ce que je veux, c'est que justement, les gens qui ont moins de moyens puissent se payer des voyages pas chers. Voilà.
Ça, c'est très bien. Dans ce travail, bon, vous faites les choses presque toutes seules. Vous avez parlé des deux ou trois personnes qui étaient autour de vous. Dans la plupart des associations, il y a quand même un travail bénévole. Est-ce que dans votre association, il y a un besoin de travail bénévole qui justifie l'utilisation comme ça de bénévoles dans certaines occasions, ou bien si seulement les membres comme ça qui prête la main à l'occasion quand il y a un événement?
Oui, non, c'est surtout quelques personnes. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde qui s'est proposé à servir la galette, mais sinon, autrement, non. Et puis, quand il suffit de faire les courses, ben, c'est moi qui fais les courses. Il faut que je m'occupe de tout, il faut que je pense à tout, parce que, voilà, les gens ne s'investissent pas complètement. Il y a quelques fidèles, c'est tout, mais pas beaucoup. Non. De bénévoles, il n'y en a pas beaucoup.
Dans vos cours, dans les cours d'espagnol que vous organisez, y a combien de gens qui suivent ces cours, et est-ce qu'il y a des gens qui vraiment sont là depuis des années, qui sont des fidèles?
Oui. J'ai des gens qui ça doit faire 9 ou 10 ans qui sont là, qui sont des fidèles, aussi bien pour les voyages que pour les cours d'espagnol, que pour plein de choses, des fidèles, oui.
Donc ils viennent là pour participer aux activités par amour de l'Espagne et par amour de la langue espagnole.
Voilà.
Et vous avez des relations avec l'événement là, les deux. En fait, il y en a deux, mais il y en a un surtout qui se produit chaque année, la semaine du cinéma espagnol.
Ben c'est justement la semaine du cinéma espagnol, c'est moi qui l'avais organisée au départ. Bon, j'avais avec moi un vice-président et lui s'occupait justement donc du cinéma espagnol, de parler avec l'Espagne parce que ces films nous sont prêtés par l'Espagne, par l'ambassade espagnole. Hein. Au départ, c'est moi qui menais cette affaire, mais ça me faisait beaucoup de travail. Donc, à un moment donné, avec mon vice-président, qui est lui d'origine espagnole aussi, je trouvais qu'il y en avait un de trop. Donc, on s'arrangeait pour que lui, il a quitté l'association et il a gardé le cinéma espagnol. Et comme c'était lui qui s'en occupait, qui avait le contact avec l'ambassade, tout ça, je lui ai laissé le cinéma espagnol, mais sinon, c'est nous qui avons créé le cinéma espagnol.
De toute façon, même si c'est plus vous qui faites fonctionner cet événement, il est connu des élèves, il est connu des membres de l'association, et le cas échéant, ils peuvent y participer
tout
autant
à fait,
qu'ils veulent.
Gratuitement.
Le temps passe, et je voudrais vous interroger maintenant un petit peu, s'il vous plaît, Marie-Rose, sur votre vie. Dans quelle partie de l'Espagne êtes-vous née? Et qu'est-ce qui vraiment vous attache à ce pays? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est l'ensemble de la culture? Est-ce que vous avez quelquefois la nostalgie de votre pays, même si vous y revenez régulièrement?
Non, j'ai pas tellement la nostalgie de mon pays. Je ne y reviendrai pas habiter pour tout l'or du monde, parce que je trouve qu'ils sont très bruyants. Sauf que j'ai perdu l'habitude, je devais être comme ça certainement avant, mais j'ai perdu l'habitude. Donc moi, je n'ai pas demandé à venir en France, c'est ma mère qui m'a obligée, chose qui m'a déplu énormément. Et alors après, pour me sortir de ce mois, j'ai trouvé un jeune homme que je voyais passer là, qui me l'air très bien, et je lui ai dit, celui-là sera très bien, comme ça, je peux partir de ce mois. Et c'est comme ça que je voulais devenir française. Voilà, mon truc à moi c'était devenir française pour pouvoir travailler et faire ce que je voulais, parce que quand je suis rentrée en face, je savais faire plein de choses et on m'a dit non, d'abord il faut que vous fassiez bon à tout faire. Pour avoir votre carte de travail, il faudra faire bon à tout faire. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui ne le croit pas, mais ça, je peux vous certifier que ça m'est arrivé à moi. Et pendant un an, il a fallu que je fasse bon à tout faire. Et je me suis horriblement ennuyée parce que je n'avais jamais quitté mes parents. Mais j'étais obligée, le jour que j'ai eu mes 18 ans, on m'a dit, il vous faut une carte de travail pour rester en France. Donc j'étais obligée de faire ça. Et donc après, je connus mon mari, je me suis mariée. Et du moment que je me suis mariée, je suis devenue française par mariage. Et là, j'ai pu aller travailler où je voulais.
Donc là, on voit encore ressurgir votre fameux esprit d'indépendance. Mais donc ça se passait avant votre majorité. C'est pour ça que quand vous êtes arrivé, vous étiez mineur et on vous a obligé à faire ce travail qui était, si on peut dire, une sorte d'éducation. Vous n'avez pas appris grand-chose. Alors après, vous avez séduit le monsieur.
Voilà.
Et puis vous êtes mariée et puis vous êtes devenue française.
Voilà.
Et est-ce que vous avez, à ce moment-là, eu des problèmes pour vous intégrer?
Un peu au départ quand même encore, parce que quand je vais dans une administration et que je commence à parler, j'ai toujours un accent que je n'ai jamais perdu. J'aurais tant voulu le perdre. Tout le monde me dit qu'il est très bon, mais moi je l'aime pas.
Pourquoi vous voudriez perdre votre accent?
Mais parce que quand je vais justement dans une administration, que je commence à parler, on ne me reçoit pas pareil que si j'étais française. Voilà. Oh, mais...
Attendez. Si vous étiez française, mais enfin, si quand vous sortez votre carte d'identité, après, il y a une carte d'identité
quand
française.
Quand je commence à parler à la personne qui est en face de moi et qu'elle voit que je sais quand même parler, là, elle met... Et ça change.
Elle change d'attitude.
Elle devient beaucoup plus aimable. Mais sinon, autrement, vous savez, quand j'arrive, je suis pris pour une étrangère. Je suis l'étrangère qui parle avec un léger accent et ça me déplaît énormément. Et j'aurais voulu le perdre, je n'ai jamais réussi. Parce que je n'ai pas été à l'école en France, qu'il a fallu que j'apprenne à lire et à écrire en français par mes propres moyens, que je aille justement après mon travail pour préparer un CAP de comptabilité, et même que j'avais déjà 200 femmes et que je travaillais. Donc ça m'a servi quand même à apprendre l'espagnol, à savoir me débrouiller et à faire comprendre aux gens que je n'étais pas plus bête qu'eux. Voilà.
Oui, vous avez été une battante même toute votre vie. Mais ça se sent bien, on le voit bien. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel travail vous avez fait à partir du moment où vous êtes rentrée dans la vie active, après cette espèce d'intermède-là, vous a obligé à faire la bonne à tout faire.
D'abord, moi, j'étais destinée à faire les sténodactylos. Parce qu'en Espagne, j'étais levée chez les sœurs. Et les sœurs nous apprenaient à tout faire. On en savait faire tout de nos 10 doigts. Et donc, moi, je voulais faire travailler dans un boulot. Mais voilà, malgré... Je devais être prise à 18 ans. Et comme ma mère a décidé de rentrer, ben, je n'ai pas été prise. Donc, arrivée en France, je n'ai pas pu le faire. Puisque je ne savais pas parler français.
Il a fallu repartir à zéro pour accéder à un niveau de français suffisant.
Tout à fait. Et donc après, ben, je travaillais chez Moulinier, où je faisais la couture. La couture, je l'ai fait depuis que je me rappelle que j'avais 7 ans, j'avais déjà une huit dans les mêmes. Donc j'ai travaillé là. Après, on est parti dans l'Est, où j'ai eu mon deuxième enfant, et là je me suis arrêtée un peu pour l'élever. Et après, je commençais à faire des retouches pour les gens. Et puis un jour, on est venu me chercher pour travailler dans ces magasins, pour justement faire la couture, parce que, pas la retouche, la couture, parce qu'il fallait savoir tout démonter, il fallait être une couturière, quoi. Travailler pour l'homme, pour la femme, voilà. Et donc, je fais ça jusqu'à que je sois à la retraite. Voilà.
Donc ça, ce que vous avez retrouvé là, c'était finalement la bonne éducation technique des sœurs qui vous ont commencé à vous éduquer.
Tout à fait.
Puisque vous aviez appris, entre autres choses, à coudre et vous en avez fait votre métier.
Oui.
Mais vous avez parlé de l'Est tout à l'heure, donc vous n'avez pas toujours vécu à Périgueux ?
Non, je n'ai pas toujours vécu à Périgueux, parce que mon mari s'est retrouvé sans travail. Mon mari a été ajourné deux fois. Pour partir au service militaire. Ça nous a bien arrangé parce que c'était quand il y avait la guerre d'Algérie. Mais il n'était pas sur l'homme, mon mari, à ce moment-là. Bon, maintenant, il a pris le double. Mais il n'était pas sur l'homme. Donc, on s'est retrouvés que quand mon mari est venu pour de son service militaire, mon mari travaillait au Sempo. Il avait une bonne place, mais monsieur a décidé qu'il ne voulait pas revenir au Sempo parce qu'il ne voulait pas être enfermé dans un bureau. C'est ce qu'il a regretté toute sa vie, et moi aussi. Mais voilà, donc on se retrouvait de partir dans l'Est parce que j'avais mon frère qui était dans l'Est quand lui il est rentré en France un peu avant moi. Et pour lui, pour gagner plus. Parce qu'on nous disait que pour nous, c'était un peu l'Eldorado, la France, hein, en Espagne. Et je croyais que tout était possible en France, moi, quand j'étais en Espagne. Et puis, je me suis rendu compte, bien sûr, que c'était pareil, quoi. Et donc, on est parti dans l'Est, on a passé 2 ans dans l'Est, mais mon mari non plus, il ne s'est pas fait parce que c'était un climat très, très froid. Et donc, il a fallu revenir vers Périgueux, puisque lui, il avait toute sa famille ici. Et moi aussi, la mienne.
Ah, d'accord. Voilà. Vos bases familiales
tout
étaient restées là, toutes les deux. Bon, donc vous avez un assez mauvais souvenir de l'Est de la France.
Oui.
Qui est effectivement un climat qui est moins agréable que le nôtre ici.
Oui, et les gens très froids, comme le climat.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, alors maintenant quand même, des souvenirs que vous avez de l'Espagne? Tout à l'heure, vous avez dit que vous pensiez qu'en France, c'était mieux qu'en Espagne, mais qu'en fait, il fallait se battre partout. Mais quand même, il y a des choses qui vous rattachent toujours à l'Espagne, dans le domaine culinaire, dans le domaine des goûts, dans le domaine de la musique.
Oui, c'est vrai ça. Surtout le domaine culinaire, parce que le reste ne me rattache pas trop en Espagne à cause de Franco. Parce que voilà, ma mère c'était une républicaine, une rouge, et mon père était de droite. D'ailleurs, mon père était un parent éloigné de Franco. Et pendant la guerre, un oncle du côté de ma mère a été condamné à mort. Et mon père est monté voir Franco à Madrid et il a été gracié. Donc nous, on n'a pas été malheureux pendant la guerre. Enfin, moi, je suis née après, mais ma mère n'a pas été malheureuse pendant la guerre à cause de mon père. Mon père est mort à Jovensan. Donc la famille de mon père, elle nous aimait pas puisqu'on était, ma mère était du côté rouge et que toute sa famille était rouge et tout. Donc rien ne me faisait rester en Espagne à cause de ça, parce que la famille de mon père, on n'a jamais trop eu de contact avec, parce qu'ils étaient de la bourgeoisie. Et bon, mon père s'est marié avec une jeune personne, c'est-à-dire que ma mère avait 15 ans de moins que mon père. Elle était très jolie, c'est pas parce que c'est ma mère, mais elle était très jolie. Donc, sa famille ne lui aurait jamais pardonné, et nous, par la même occasion, on a suivi tous ces trucs-là, et je ne me rappelle même pas de mes grands-parents paternels.
Mais vous avez quand même, par la bande, dans votre enfance et dans votre adolescence, vous avez quand même vécu sous le franquisme en Espagne. Oui, et de ça, vous en avez quand même des souvenirs.
Oui, mais des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs, parce que il y avait un problème. Bon, j'étais encore jeune, évidemment, mais il y avait un problème avec les deux familles. Et ça m'a toujours dérangé. Ça fait que j'ai plein de familles en Espagne de mon père, mais que je ne fréquente pas. Quand l'année dernière, je suis passée à côté et j'ai voulu voir un cousin qui me restait. Et je n'ai pas pu le voir, donc je lui ai téléphoné une fois et puis il n'avait pas l'air trop intéressé, donc je l'ai laissé tomber. Voilà. Non, rien ne m'attire en Espagne. Je suis une sœur qui est en Espagne, elle, qui vient nous voir tous les ans. C'est tout. Mais autrement, non. Non.
Là, on touche à travers votre témoignage les terribles fractures qu'a occasionné la guerre civile dans ce magnifique pays. Et malgré tout, puisque vous y revenez chaque année, vous y revenez quand même avec plaisir, je suppose.
Oui.
Vous êtes bien d'accord pour reconnaître que c'est un pays qui est plein de choses merveilleuses et magnifiques, puisqu'il attire presque autant de touristes que le nôtre.
Et oui.
Là, je crois que les auditeurs ont pu juger de quelle trempe vous étiez. Vous êtes une femme très active, extrêmement volontaire.
Je l'ai toujours été.
Et je vous remercie beaucoup, Marie-Rose, de nous avoir parlé et de votre association et de votre vie si intéressante.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté, parce que je parle beaucoup.
Non. Merci encore.
Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol.
C'était Tranche de Vie, une émission proposée par Jean-François.
E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Ligia, Ligia, eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana. Um chope gelado em Copacabana. andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome rasguei.